Pourquoi RFI dit ça, Jean-François Cadet.
Bonjour, ça n'arrive pas toutes les semaines, mais cette fois on va parler sport et même sport au féminin. Ce sera juste avant la chronique de Frédéric Genot, mais pour commencer, focus sur un pays, le Burkina Faso. Le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, plus connu sous le nom de FESPACO, l'un des plus grands festivals de cinéma d'Afrique, se déroule actuellement dans la capitale burkinabé et RFI ne couvre que très peu l'événement, ce qui semble émouvoir nos auditeurs. C'est le cas de Moumouni Kabore ou de Selmar Laflamme, lequel nous dit même, sans doute avec une certaine ironie, « Il y a le FESPACO présentement à Ouaga, pensez à y faire un tour, ça vous fera certainement du bien ». Bonjour Laurent Corot.
Bonjour Jean-François.
Vous êtes rédacteur en chef du service Afrique. Que peut-on répondre à ces deux auditeurs ?
Alors c'est vrai que notre couverture du FESPACO ces derniers temps n'a pas l'ampleur de celle qu'elle a pu avoir il y a quelques années avec, à l'époque, plusieurs envoyés spéciaux, des rendez-vous à l'antenne plusieurs fois par jour, des magazines aussi complets consacrés à ce festival. Là, nous avons une couverture qu'on pourrait qualifier de minimale. On a marqué le coup lorsque le Tchad a été désigné invité d'honneur en janvier dernier. Nous avons également marqué l'ouverture du festival avec un dossier du matin qui a été présenté par Frédéric Gara le jour même donc de l'ouverture. Nous faisons quelques éléments de temps en temps. Hier, par exemple, jeudi, nous avons présenté les deux réalisateurs burkinabés qui sont en lice dans la catégorie fiction long-métrage, à savoir Dany Kouyaté et Chloé Aïcha Boro. Donc oui, nous faisons moins que d'habitude.
Alors, est-ce que ça marque un désintérêt de notre part, Laurent, pour la culture africaine, pour le cinéma africain, et peut-être même, si on élargit, pour les créateurs des pays de l'AES ?
Absolument pas. Nous avons immédiatement mobilisé notre équipe, par exemple. Nous avons fait de la place à l'antenne quand Souleymane Cissé, le grand réalisateur malien, est décédé la semaine dernière avec des directs, un invité. Nous nous sommes mobilisés. Le service culture porte une attention particulière sur les films africains chaque fois qu'il y en a en compétition dans les festivals internationaux. Et nous nous intéressons aussi à des rencontres qui sont moins connues. Nous avons couvert, par exemple, Yara, la semaine internationale du premier film qui s'est tenu à Yaoundé en janvier sur le thème de l'avenir du cinéma africain à l'ère du numérique. Nous étions également au festival de Marrakech en novembre, au festival Dakar-Cour en décembre, au festival euro-africain le même mois, etc. Donc, si vous voulez, notre intérêt pour la création culturelle africaine, il est clair et il est constant.
Mais alors, pourquoi faire aussi peu sur le FESPACO ?
Eh bien, pour différentes raisons. La première, qui est évidente, c'est que depuis la coupure du signal de RFI au Burkina Faso, nous n'avons plus de présence de journalistes sur le terrain. Nous n'avons même plus d'accord des autorités pour nous rendre au Burkina. Nous ne pouvons plus envoyer de reporters à Ouaga. Il faut vous dire qu'il y a 2 ans, nous avions fait toutes les démarches pour avoir un envoyé spécial au FESPACO. Et les autorités burkinabées ont bloqué la demande d'accréditation. La deuxième raison, c'est que avec la campagne anti-RFI qui a lieu ces dernières années, depuis la coupure dans certains pays, certains interlocuteurs craignent les conséquences que pourrait avoir une prise de parole sur RFI. Il faut dire clairement les choses, Jean-François, certains ont désormais peur de nous parler. Et il faut noter qu'on a sollicité, par exemple, une interview auprès des responsables du FESPACO cette année pour l'ouverture du festival cette année et que cette demande est restée sans réponse. Je crois par ailleurs qu'il ne serait pas honnête dans une situation où nous sommes toujours coupés au Burkina Faso, dans une situation où nous ne pouvons pas travailler normalement dans ce pays, de feindre la normalité au moment du FESPACO. Alors, ça n'est pas de gaieté de cœur que nous ne sommes pas aussi présents que nous le souhaiterions sur ce festival. Ça ne sera pas éternel, nous l'espérons, mais dans le contexte actuel, difficile de faire beaucoup plus.
Au Burkina Faso, les attaques djihadistes se sont multipliées dans la région nord, un phénomène que RFI a traité. Et ça semble d'ailleurs interroger nos auditeurs à propos de la véracité des informations. Ainsi, Isaka Dolo demande « Vous n'avez plus de représentants au Burkina Faso. Comment vous avez eu l'information alors que les sources sécuritaires du Burkina ne l'ont pas raconté ?» Même interrogation chez Balimba Ting Adala. « Pourquoi RFI n'est plus au Burkina ? Comment vous faites pour savoir ? Ou bien vous travaillez ensemble ?»
Je voudrais commencer par répondre aux insinuations du deuxième auditeur. Je trouve, monsieur, ce genre de propos tout à fait nauséabond. Vous savez, nous avons perdu 2 collègues qui ont été assassinés par des djihadistes. Ces collègues s'appelaient Claude Verlon et Ghislaine Dupont. Ils ont été assassinés le 2 novembre 2013. cette blessure-là ne s'est pas refermée, elle ne se refermera peut-être jamais. Comment pouvez-vous imaginer que nous puissions collaborer avec leurs assassins ? Alors après, difficile de vous en vouloir. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, de nombreux infox ont été répandus au sujet de RFI et de France 24. Dans la grande guerre informationnelle qui est en cours, certains veulent s'en prendre à la crédibilité de RFI, mais on peut se demander... quel est leur agenda ? Qui sont leurs employeurs ? À qui profitent ces attaques en règle contre RFI ? Il faudrait peut-être les interroger, finalement, ceux qui répandent ce genre d'infox. Côté RFI, en tout cas, si vous voulez, les choses sont claires. Nous bénéficions de financements publics français, mais nous sommes une radio de service public. L'info est produite par une équipe indépendante de journalistes professionnels et nous sommes attachés à l'objectivité, à la neutralité et à l'indépendance de l'information.
Mais que répondez-vous, Laurent, à cet auditeur qui se demande comment RFI continue à avoir des informations sur le Burkina alors que nous ne sommes plus présents là-bas ?
On pourrait d'ailleurs élargir. Comment continuons-nous à avoir des informations sur le Mali et le Niger ? Eh bien, c'est assez simple, en fait, en faisant notre travail. Nous avons à Paris au service Afrique, à Dakar dans la rédaction Full Full des Mandinkans et avec notre réseau de correspondants dans les pays voisins. Nous avons, eh bien, avec tous ces journalistes, une équipe qui travaille depuis des années sur ces pays, sur ces zones. Ces confrères, eh bien, ils ont un véritable carnet d'adresses avec des sources militaires, diplomatiques, politiques, des interlocuteurs jusque dans des régions reculés et ils ont su gagner le respect de leurs sources et donc ils parviennent à sortir des informations, à obtenir des témoignages rares. C'est vrai qu'à l'heure des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, on pourrait presque oublier que la production de l'info, eh bien, c'est un travail de longue haleine sur un carnet d'adresses, sur les sources, avec du recoupement. C'est beaucoup de contacts, beaucoup d'appels téléphoniques. Si vous voulez, il ne suffit pas de scroller sur son écran pour révéler quelque chose qui n'était pas connu jusqu'alors, ça demande du travail, de l'énergie. Et donc, pour répondre plus directement à la question de M. Dolo, comment avez-vous eu l'information alors que les sources sécuritaires du Burkina Faso n'ont pas rapporté cette histoire ? En fait, c'est ça l'importance de tout ce travail autour de la rigueur, de la confiance dans la gestion des sources et des informations. C'est que quand les gens vous connaissent, quand les gens savent comment vous travaillez, qu'ils vous respectent, eh bien, ils acceptent parfois de parler en dehors des circuits officiels de communication. Et vous pouvez alors, dans ce cas-là, trouver des sources sécuritaires qui parlent avant même que la lourde machinerie de communication ne se soit mise en place. C'est d'ailleurs valable partout dans le monde. Quand Franck Alexandre, le spécialiste défense de RFI, sort fin décembre dernier l'info suivant laquelle le Tchad demande un départ des forces françaises d'ici au 31 janvier, eh bien, il la sort, cette information, parce qu'il a des sources proches du gouvernement français qui indiquent que Paris a bien reçu une demande pour un départ des troupes à cette date, et parce qu'Esdras Dikoumana, qui est un des spécialistes du Tchad au service Afrique, lui, a pu obtenir la confirmation de cette information par ses sources à lui. Il n'y a pas eu de communiqué officiel concernant cette information, mais nous avons réussi à la sortir.
Laurent Corot, rédacteur en chef du service Afrique de RFI, merci. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler sport dans Pourquoi RFI dit ça, grâce à un auditeur qui nous interpelle sur la place du sport féminin à l'antenne. Bonjour Frédéric Suto.
Bonjour Jean-François.
Vous êtes chef de service adjoint du service des sports de RFI. Cet auditeur, qui s'appelle Gilles, a été interpellé par ce genre de phrase.
Liverpool est le prochain adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le PSG qui aura d'ailleurs fort à faire tout à l'heure, ce soir, contre l'Olympique Lyonnais.
Gilles nous écrit, je cite, « Lorsque vous parlez de sport, vous ne précisez pas qu'il s'agit de sport masculin. » Alors, c'est pas complètement faux, hein, Frédéric, c'est comme si ça tombait un petit peu sous le sens. Pourtant, pour rester dans le football, il y a un PSG masculin et un PSG féminin, on est d'accord ?
Oui, mais là, si j'ai bien entendu, on a dit en Ligue des Champions.
Absolument.
On aurait pu dire « Liverpool va affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Championnes ».
Voilà, mais il y a aussi une Ligue des Champions féminine.
Oui, alors, il y a quelques années, on disait « Ligue des Champions féminine », maintenant on dit « Ligue des Championnes ». On a un petit peu évolué et, à mon sens, dans la bonne direction. Mais bien entendu qu'il soulève, notre auditeur, une question cruciale. Mais c'est vrai qu'en sport, notamment en football, quand on parle de foot, on ne précise pas football masculin parce que ça semble évident pour tout le monde. Et peut-être que dans quelques années, on fera cette distinction-là. Parce que c'est vrai que quand vous regardez, il y a des sports quand même, on le précise. Vous parlez de tennis. Mmh. Même si on connaît les grands champions de tennis, vous allez dire, dans le tableau masculin, Roger Federer retrouvera en huitième de finale, blablabla. Dans le tableau féminin, Serena Williams. On précise en tennis peut-être parce qu'il y a une unité de lieu aussi. On a souvent les hommes et les femmes qui jouent au même endroit, un tournoi du Grand Chelem, et on va distinguer. En basket aussi, l'afro-basket féminin, l'afro-basket masculin. Mais c'est vrai qu'en foot, ça semble tellement évident pour tout le monde, au détriment du foot féminin, qu'on ne prend pas le temps de préciser que c'est du foot masculin.
Bon, et c'est vrai qu'on parle assez rarement quand même de la sélection féminine de football, en tout cas nettement moins, c'est le moins qu'on puisse dire, que la sélection masculine, on est d'accord.
Oui, et les chiffres sont là pour le confirmer. Hein, mais...
Parce que le public est moins intéressé par le sport féminin, les auditeurs
auditrices. C'est toujours pareil, c'est l'effet boule de neige. Nous, médias, on pourrait vous dire, mais ce serait sûrement un petit peu facile, on ne parle pas beaucoup du foot féminin parce que ça n'intéresse pas les gens. Mais déjà, qu'est-ce qu'on en sait ? Et puis, plus on en parlera, plus on le mettra en avant à l'antenne et dans nos sujets, plus les gens s'y intéresseront. Mais tout le monde se réfugie un petit peu derrière ça. Les sponsors aussi disent, si on met un match de foot à l'heure de grande écoute, les audiences seront catastrophiques. Et c'est vrai que pour l'instant, y a vraiment, entre un grand match du PSG masculin ou un grand match des filles du PSG, l'écart d'audience, il est caricatural.
Oui, c'est aussi le cas dans les stades d'ailleurs. Les tribunes sont rarement pleines quand ce sont les filles qui jouent.
Les filles du PSG, enfin on prend cet exemple-là, on est à Paris, on n'est pas loin du Parc des Princes, mais c'est vrai pour quasiment toutes les équipes féminines. Vous avez un championnat de France de foot féminin, y a des matchs où on a quelques centaines de spectateurs, pas plus.
Alors, on a quand même parlé de foot féminin ce mercredi sur RFI, quand Christophe Diremzian nous a parlé du parcours d'Eugénie Le Sommer, devenue la veille la plus capée des footballeurs et des footballeuses confondues de l'équipe de France. C'était en Ligue des Nations contre l'Islande.
199 maillots tricolores revêtus en 16 ans, c'est une fois de plus que Sandrine Soubéran. Autre référence en bleu de 1997 à 2013. Le Sommer la voyait comme un modèle, la source d'inspiration qu'elle ne trouvait sinon que chez les hommes. Aujourd'hui, la jeune génération la cite en exemple pour sa longévité.
Voilà, elle est lyonnaise, hein, Eugénie Le Sommer, comme quoi on ne parle pas aussi que des Parisiens. Donc c'est la preuve, là, avec l'intervention de Christophe, que RFI sait aussi parler de sport féminin. C'était aussi le cas, d'ailleurs, au moment des Jeux Olympiques de Paris.
Oui, et je rappellerai à ce propos qu'on avait deux consultantes. On n'avait pas de consultants. Hein. On avait fait ce choix fort d'avoir deux femmes consultantes pour les JO, Françoise Bongo et Sarah Danint. Bon... Je pense que si on regardait un petit peu tout ce que font les différents médias, il n'y a pas encore assez de sport féminin sur RFI, mais il y en a peut-être plus qu'ailleurs. Hein. Vous avez des mondiales sport entiers qui sont consacrés le week-end au sport féminin. Pendant les Jeux Olympiques, il y a eu cet effort-là. On couvre régulièrement, en allant sur le terrain, des cannes féminines de football. La Ligue des championnes africaines, le tout-puissant Mazembe, elles sont championnes d'Afrique. On a beaucoup de sujets qui se retrouvent à l'antenne. Il y a cette volonté d'essayer de rééquilibrer un petit peu sport masculin comme sport féminin.
Mais alors Frédéric, notre auditeur, Gilles, trouve que 50% du temps d'antenne devrait être consacré au sport féminin. Est-ce qu'on en est loin ? Est-ce que c'est réaliste ? Et est-ce que c'est souhaitable d'avoir une réflexion comme ça
chiffrée ? On en est loin, mais après, on arriverait dans une politique des quotas qu'on peut avoir sur d'autres sujets, quand il y a de la discrimination. Mais à un moment donné, il faut quand même que ça corresponde aux attentes du public, à ce qui se passe réellement sur le terrain. Faire du 50-50... Je sais pas. L'idéal, ce serait quand même que les choses se fassent de façon naturelle. Mais cette réflexion, vous savez que tous les médias l'ont. Vous parliez d'Eugénie Le Sommer. Elle vient de battre le record de sélection. 199 sélections. C'est le record en France pour le foot féminin. Elle a fait la une du journal L'Équipe, ce jeudi. Mais les unes avec une sportive... Pour le journal L'Équipe, il y en a une dizaine par an sur 350 numéros. Et c'est un procès qui est fait régulièrement au journal L'Équipe. Il se passe tous les jours des choses avec des sportifs de grands exploits. Mais eux, ils ont constaté quoi ? Quand on met une Eugénie Le Sommer, on vend beaucoup moins de journal en une quand on la met en une que quand on met Kylian Mbappé, même si c'est juste pour dire qu'il est allé chez le dentiste. Il a dû se faire opérer d'une dent de sagesse.
Oui.
Mais voyez, bon. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les mentalités... évolue et qu'on arrive à terme sur cette parité. Hein.
Merci Frédéric Suteau, Frédéric au masculin, et tout de suite
autre
Frédéric.
Oui, avec
Frédéric,
un C. Hein.
Avec un C, mais tout de suite.
Il y a Frédéric QE.
Voilà,
aussi.
Bah justement, bah, une autre Frédéric QE, justement, au féminin, tout de suite. Pourquoi RFI dit ça comme ça ? Bonjour Frédéric Genot.
Bonjour Jean-François, bonjour à tous.
Un lecteur assidu de notre site internet regrette que RFI utilise l'orthographe russe du nom des villes ukrainiennes, Kiev en l'occurrence. Ce qui pourrait apparaître comme un détail, dit-il, ne l'est en fait pas du tout.
Dans un pays en guerre, un pays dont une partie de la population était russophone et dans lequel le fait d'employer la langue ukrainienne est devenu un geste politique, un acte de résistance même, le choix des noms n'est pas anodin, nous en sommes bien conscients. Pour résumer, la ville de Kiev, la capitale de l'Ukraine, est ainsi nommée depuis le VIe siècle. C'est ainsi que Balzac en parle au milieu du XIXe. Et au XIe siècle, la princesse Anne de Kiev a été mariée à un roi français, pas très connu, je vous l'accorde, Henri Ier. Et elle est la mère d'un autre roi français, Philippe Ier. Je vous vois bien, Jean-François, vous demander à quoi bon remonter aussi loin dans le temps. Eh bien, tout simplement pour expliquer que c'est cet usage qui prime toujours dans les décisions de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui dépend des Nations unies lorsqu'elle est sollicitée pour une question de cet ordre.
Mais les Ukrainiens eux-mêmes ne disent pas Kiev.
Ils le disaient parfois avant la guerre. Désormais, c'est sûr, lorsque vous les entendez, comme dans les éditions spéciales que nous avons encore diffusées en début de semaine, ils disent bien Kiev. Cela s'écrit K-Y-I-V, Kiev, et non pas Kiev. À RFI, nous ne considérons pas que nous utilisons le nom russe. Nous employons le nom français, comme quand nous disons Londres et pas London, Berlin et pas Berlin, Rome et pas Roma.
Mais tous les médias n'ont pas fait ce choix.
Non, c'est vrai, Jean-François, que le quotidien Libération a choisi d'écrire Kiev il y a 2 ans déjà, en expliquant pourquoi à ses lecteurs. De nombreux podcasts, français et suisses par exemple, donnent à chaque fois les deux noms, Kiev et Kiev. Et à RFI, si vous écoutez bien, les journalistes basés à Paris disent Kiev, et notre correspondante en Ukraine, Emmanuelle Chasse, dit bien Kiev. J'ajoute que, comme nous ne sommes pas à une contradiction près, nous disons Kiev, le nom russe pour la capitale, mais Lviv et non pas Lvov, Kharkiv et non pas Kharkov, Zaporizhia et non pas Zaporodie, autrement dit le nom ukrainien et non pas le nom russe pour les villes moins importantes ou moins connues. Mais là encore, c'est plus une question d'usage qu'une question politique et cela ne concerne pas que l'Ukraine. Pour reprendre un exemple italien, on dit bien Rome et pas Roma pour la capitale, mais on dit Lampedusa, le nom italien, et non pas Lampedusa, le nom français oublié depuis des lustres.
Autre question d'un internaute, Frédéric. Il reproche au site internet de ne pas connaître les règles de la typographie, parce que le signe 2 points n'est pas séparé du caractère qui le précède par un espace.
Alors nous allons essayer d'expliquer cela à l'oral de la façon la plus claire possible. Si nous prenons un titre de la semaine, Soudan, 2 points, espace, un gouvernement parallèle en formation. Comme le constate notre lecteur, la règle n'est pas respectée. En principe, il faudrait lire Soudan, espace, 2 points, espace, un gouvernement parallèle en formation. Si les règles de la typographie ne sont pas respectées dans cet exemple précis, ce n'est pas, comme l'écrit cet internaute, parce qu'à la différence du journal Le Monde, RFI n'emploie pas de typographe qui pourrait informer leurs collègues du site internet. Non, c'est parce que notre logiciel est facétieux et que c'est la seule façon pour nous, actuellement, de ne pas nous retrouver avec un double point en début de ligne. Nos articles sont lus sur des supports différents, parfois des téléphones qui proposent les titres sur 2, parfois 3 lignes. Le service internet le regrette, mais cette absence d'espace entre la fin de certains mots et le double point, c'est un moyen d'éviter une aberration typographique qui déplairait sans doute encore plus à nos lecteurs, des lecteurs que nous saluons au passage et dont nous apprécions l'exigence.
Merci Frédéric. Pourquoi RFI dit ça ? La réalisation Alexandre Cailloux est là. La semaine prochaine, le retour à ce micro de Julia Trangeval. À bientôt.